agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes
notre patrie. C'est la République.
Depuis le 18 juin,
la France et la liberté ne font qu'un. Les obsèques du général Lamarque auront lieu dans 3 jours. Tout le peuple de Paris l'accompagnera dans son dernier voyage. Messieurs, ce sera le jour de montrer si nous sommes prêts à vivre libres ou à mourir.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont plutôt différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À peine l'immense manifestation du 11 janvier dernier s'était-elle achevée, à peine la France avait-elle démontré à la face du monde cette impressionnante capacité de mobilisation collective, qu'on a commencé un peu partout, comme il est naturel, de chercher à en interpréter les ressorts et les couleurs. La plupart des politiques sur les divers bords y ont mis de la prudence au début au moins. Emportés qu'ils étaient, voyez cette émouvante Marseillaise surgir à l'improviste dans l'hémicycle du Palais Bourbon, emportés qu'ils étaient par ce puissant mouvement que beaucoup ont jugé sans pareil. Les sociologues de leur côté ont apporté un bémol à l'idée d'unanimité, étant attentifs à la situation des habitants des quartiers, comme on a accoutumé de dire bizarrement, et plus particulièrement des jeunes musulmans, soulignant qu'ils semblent bien, pour la plupart, s'être tenus en dehors du défilé. Quant aux historiens, ils ont été aussitôt portés, selon leur vocation, à resituer cet épisode dans l'évolution biséculaire des cortèges et attroupements de toutes sortes, des « démonstrations », comme on dit en anglais. Avec le souci de mettre en lumière ce que le 11 janvier a pu avoir de proprement extraordinaire, mais aussi de restituer la continuité. Et je ne crois pas avoir pu songer à une invitation plus adéquate que celle que j'ai faite ce matin à Daniel Tartakovsky, président de l'Université Paris 8, car dans plusieurs travaux fort reconnus et largement salués, elle a traité des grandes mobilisations de la rue et dans la rue depuis la Révolution. Par quoi elle est vouée à nous protéger contre le vertige de l'inédit absolu, tout autant que contre l'idée courte des éternelles répétitions à l'identique, ce qui risquerait d'effacer l'originalité remarquable, en l'occurrence, de l'événement dont il s'agit.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston, il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs, je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air, une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste. La petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations, si j'ai souvent commis les fautes, on me donne tort ou raison de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui le charronnent à la nation. en ont vu défiler par ordre. Des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En gros pandique en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai la preuve par quatre. S'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste.
Daniel Tartakovsky, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé une chanson de Jean Ferrat que vous avez assurément reconnue, en groupe, en ligue et en procession. C'est une chanson de 1966. Si je l'ai choisie, c'est qu'elle me paraît à la fois très datée à certains égards et en même temps portée un bon nombre des thématiques que ce matin nous allons avoir à aborder.
Indéniablement, elle est doublement datée. Nous sommes au terme de la guerre d'Algérie, 4 ans après. Les manifestations ont été interdites, se sont néanmoins déroulées, ont quelquefois soldé par des morts. Et en même temps, 65-66, c'est le moment de la reprise des grandes manifestations syndicales unitaires face aux ordonnances du gaullisme. Et donc on est à un moment tournant dans l'histoire de la rue, et je crois qu'on y sent un espoir d'une France qui se remet en marche, et c'est très daté.
Il y a à la fois l'opposition de la grève et de la révolution, vous l'avez observé, il y a aussi l'idée qu'il faut développer une hostilité à tous les militarismes. C'est le déroulette de l'arrière,
oui,
c'est-à-dire l'anti-déroulette, c'était le poète nationaliste, comme on sait, de la fin du 19e siècle, l'homme des cocoricots retentissants.
De ce point de vue-là, c'est bien un moment tournant dans l'histoire de ce pays, parce que en 62, c'est 4 ans avant, la France a été en guerre de 1940 à 1962, sans discontinuer, et une page se tourne et on entre dans un autre type de lutte que cette chanson exprime.
Par rapport aux forces de l'ordre, évidemment, on ne peut qu'être frappé de l'évolution entre 1968, 2 ans après la chanson, et aujourd'hui. CRS, SS d'un côté, et de l'autre, cette image qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, où on voyait un vieux monsieur qui peut-être avait été étudiant en 68, et qui sautait dans les bras quasiment d'un
bien
grand
sûr,
CRS.
J'étais là au moment où toute une série de cartes de CRS ont coupé la manifestation, et c'était un moment très étonnant pour quiconque a suivi un peu les manifestations en pratique ou en les étudiant.
Si on va chercher la préhistoire des manifestations, Daniel Tartakovsky, c'est-à-dire l'époque de la Révolution et surtout celle de la Restauration, est-ce que c'est plutôt la continuité qui vous frappe? Est-ce que vous considérez que ces moments sont vraiment des anticipations de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle sous la Troisième République et jusqu'à présent? Ou au contraire, êtes-vous frappé par une différence majeure, par une rupture?
D'abord, je distinguerais la Révolution et puis ce qui se passe sous la Restauration. La Révolution ou les révolutions ou les journées révolutionnaires du 19e siècle sont des moments où le peuple de Paris descend dans la rue et c'est ici et maintenant. On pourrait comparer d'une certaine manière avec les printemps arabes. C'est bien un rassemblement dans l'espace public, mais dont l'objectif, c'est que ça change tout de suite. Et c'est un rapport de force. Et ces révolutions peuvent être des révolutions violentes et peuvent mal se terminer lorsqu'il s'agit de journées révolutionnaires. En général, on emploie ce terme quand ça finit très mal, pour ce qui ne devient pas. Et alors, bien évidemment, le poids de ces journées dans la construction de notre histoire politique confère à la rue une valeur très particulière.
Est-ce que vous inscririez la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui est une fête organisée de façon officielle, et que d'ailleurs notre propre 14 juillet évoque autant que la prise de la Bastille, on l'oublie parfois, est-ce que vous situeriez cet événement dans la continuité des manifestations dont nous parlons ce matin?
Oui, ben je crois qu'il s'agit de ce que j'ai proposé de qualifier de manifestation de souveraineté, c'est-à-dire des moments rares de notre histoire, où le pouvoir, pour se construire, ou pour se protéger, ou pour affirmer sa puissance et sa légitimité est amenée à rassembler dans la rue, autour de lui, autour de ses valeurs. Sous la Restauration, c'est assez différent. Aucune liberté démocratique, un espace public qui est un espace public solidement maîtrisé par les forces de l'ordre, par quoi il faut entendre l'armée à l'époque, Et par conséquent, il faut se saisir des interstices qui, occasionnellement, permettent de manifester.
Alors, vive les funérailles, si je peux dire.
Manifestation, à ce titre. Et l'espace des cimetières, on ne tire pas sur les ambulances et on ne réprime pas dans les cimetières, ou en tout cas on évite. Et l'occasion des enterrements, avec la sacralité de la mort, sont une des très rares occasions qui permettent à l'opposition libérale ou aux étudiants de se manifester face au pouvoir de la Restauration. Alors évidemment, on est contraint, et il faut qu'il y ait un grand mort, il faut qu'il y ait un mort libéral, mais un certain nombre d'enterrements d'élus, de députés libéraux ou de généraux napoléoniens ont été l'occasion de rassemblements dans le cimetière du Père-Lachaise, qui est alors vécu par les libéraux comme une sorte de panthéon d'attente. Il est très intéressant de revoir encore aujourd'hui le monument du député libéral Manuel, dans le cimetière du Père-Lachaise.
Manuel qui meurt en août 1827.
Sur le socle, la patrie attend pour lui d'autres honneurs.
D'où les vers fameux de Victor Hugo, rendant hommage, après coup, dans les châtiments, à l'époque du Second Empire, à Manuel, et disant, vicomte de Foucault, c'était le chef de la garde qui a arraché Manuel à la tribune de la chambre, vicomte de Foucault, lorsque vous empoignâtes l'éloquent Manuel de vos mains auvergnates, Foucault était d'une vieille famille auvergnate, vous l'avez compris, comme l'océan bout quand tressaille l'Etna, le peuple tout entier s'émut et frissonna. On vit, sombre lueur, poindre 1830, l'antique royauté, fière et récalcitrante, chancela sur son trône, et dans ce noir moment, on sentit commencer ce vaste écroulement. Et c'est vrai que ces funérailles annoncent la chute de la
Absolument.
Restauration.
Et sur le socle de la statue du général Foy, qui décède en 1825, il y a de très belles sculptures qu'on doit à David d'Angers, sur lesquelles on représente le peuple dans la rue en train de porter le cercueil du général Foy. C'est-à-dire qu'on a bien une manifestation qui a été statufiée dans l'espace du Père-Lachaise.
Je dois dire aussitôt que vous avez beaucoup étudié le Père-Lachaise, vous avez consacré un livre important à ce cimetière essentiel, Daniel Tartakovsky. Mais revenons à ces enterrements de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Comment est-ce que ça se passe? Les étudiants arrivent derrière, et il y a tout un processus qui se définit à mesure.
Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on est dans une période où il n'y a pas d'organisation. C'est les propos qu'on échange qui amènent à se rassembler peu à peu.
Les papiers qui circulent, on est loin.
Le rôle de la presse, qui est vraiment un organisateur des masses, pour reprendre une formule qui ne date pas de la Restauration, qui est ultérieure et qui vient d'ailleurs. Oui, je crois que c'est à partir des nouvelles qu'on s'échange, et qu'on s'échange autour des crieurs de journaux, que l'on se rassemble, qu'on sait que quelque chose va se passer et que l'on se rapproche des lieux qui sont des lieux protégés, c'est-à-dire les cimetières.
Il circule des petits papiers où au crayon on a indiqué le lieu de rassemblement.
Oui, des papillons.
Ça annonce longtemps à l'avance, c'est un peu, mais beaucoup moins efficace.
La résistance. Et oui, dès lors qu'il n'y a pas de liberté démocratique et d'espace public, dans la double acception du terme d'ailleurs, il faut faire circuler l'information par des voix qui sont des voix, c'est de main à main, de bouche à oreille, donc d'individu à individu. Et on voit bien là comment le groupe se construit de façon, par proximité. Nous sommes encore dans un Paris où les proximités géographiques et physiques pèsent un grand poids pour se rassembler, d'où le rôle des étudiants dans un espace qui bruit toujours un peu plus que le reste de Paris et où la circulation de ce genre de nouvelles est plus aisée qu'ailleurs.
Passons sur la Révolution 1830. Après un moment où on a l'espoir d'une vraie libéralisation, non seulement de la presse mais aussi de la manifestation dans les rues, le régime de Louis-Philippe s'en inquiète, et en particulier après les obsèques du général Lamarque, encore un général, et encore des funérailles qui ont une grande portée politique.
La mort du général Lamarque, tous les détails. La mort du général Lamarque, tous les détails.
Demandez le constitutionnel, la mort du général Lamarque, le constitutionnel.
Les dernières paroles du grand soldat. Le constitutionnel, le général
Lamarque. Mes amis, que sa mort soit pour la République l'occasion de renaître. Son dernier mot a été... patrie. Sa patrie, notre patrie, c'est la République. La France et la liberté ne font qu'un. Les obsèques du général Lamarque auront lieu dans 3 jours. Tout le peuple de Paris l'accompagnera dans son dernier voyage. Messieurs, ce sera le jour de montrer si nous sommes prêts à vivre libres ou à mourir.
Alors, vous venez avec nous, monsieur Mabeuf. On va flanquer le gouvernement par terre.
J'en suis.
Il va y avoir du tapage.
C'est bon.
Des coups de sabre et des coups de fusil, monsieur Mabeuf.
C'est bon.
Et même des coups de canon.
C'est bon.
Présentez. Hop.
Laissez-nous passer.
C'était là une interprétation des Misérables de Jean-Paul Le Chanois dans un film de 1958. Vous avez peut-être reconnu Serge Reggiani dans le rôle d'Enjolras. Il faut rappeler que Général Lamarque combinait dans sa personnalité, il est mort du choléra en 1832, à la fois la tradition bonapartiste et l'aspiration républicaine. C'est un baron d'empire qui avait beaucoup d'éloquence et qui était député juste avant le 1830. Il est resté après une personnalité populaire. Et symbolique.
Ombre sublime des martyrs de la liberté. Il est clair que les cimetières permettent de se rassembler quand nul autre espace n'est ouvert, mais la mort et la mort de personnalités qui sont populaires et qui sont, peuvent être assimilées à des martyrs de la liberté sont évidemment un puissant facteur qui réunit, qui rassemble au nom de valeurs portées par le mort qui sacralise d'une certaine manière ces valeurs. Donc je crois que ces obsèques et celles du général Lamarque, qui ont marqué de par l'importance de la foule rassemblée, témoignent bien de la relation forte qui peut se nouer entre deuil et politique.
Avec une évolution des comportements des uns et des autres, certains craignent d'être emportés par le tumulte. Je pense à Lafayette, qui est courageux mais pas téméraire, qui se réfugie en province. Alors qu'à Paris, le peuple surgit des pavés, sans qu'on l'ait vraiment prévu. C'est la mort de Gavroche.
Oui, c'est ça. On a une construction en acte du peuple de Paris, qui évidemment n'est jamais une donnée sociologique, ou en tout cas est toujours beaucoup plus qu'une donnée sociologique. Et ce peuple en acte, il se construit par et dans l'événement, par et dans un rapport aux rues de Paris et à l'histoire qui est portée par les rues de Paris. Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, dit Louis Aragon, va évidemment colorer, je crois, l'histoire des manifestations d'une teinte très particulière dans ce pays et continue à faire que ce qui se passe dans la rue véhicule toujours toute une série d'épisodes passés qui sont retranscrits, qui sont transmis. Je crois que les manifestations de rue constituent un puissant vecteur de transmission de l'histoire parce que nous avons cette histoire antérieure qui est évidemment une histoire forte.
Si nous en arrivons au Second Empire, il y a des similitudes. Je voudrais que nous arrêtions un instant sur le cas vraiment représentatif de Victor Noir, un directeur de journal, la Marseillaise, s'en étant pris au prince Pierre Bonaparte, un projet de duel en surgit, et le directeur de ce journal, Grousset, envoie 2 témoins, comme c'était l'usage, au prince Bonaparte. La discussion tourne mal et un de ses témoins, jeune journaliste Victor Noir, est tué d'un coup de pistolet par Bonaparte. Et du coup, il devient une sorte de symbole. On est au début de 1870, peu de temps avant la chute du Second Empire. Et la statue de Victor Noir est précisément, due à Jules Dalou, est précisément dans ce cimetière du Père Lachaise auquel vous avez consacré, Daniel Tartakovsky, tant d'attention.
Ben oui, on a pu dire que les obsèques de Victor Noir avaient été les obsèques de l'Empire. Évidemment, c'est après coup. Victor Noir aurait dû être enterré au Père Lachaise et le pouvoir impérial décide d'interdire l'entrée du cortège funèbre dans Paris. Il ne peut pas être enterré au Père Lachaise. Il est enterré de façon provisoire dans un cimetière de Neuilly. Le provisoire durera 20 ans et c'est 20 ans plus tard que pourra être inhumé là où c'était prévu, c'est-à-dire dans le cimetière du Père-Lachaise, où cette tombe de Dalou, pour des raisons qui ne tiennent pas exclusivement à des données politiques, va devenir le lieu d'un culte un peu particulier qui présente...
Expliquez-nous ça.
Que voulez-vous que je vous explique ?
Tout.
Eh bien, dans la statue de Dalou, ce jeune Victor Noir a une érection qui est très visible sur la statue et qui donc devient le lieu de culte. Mais enfin, là, je crois que ça relève davantage des pratiques un peu étranges qui existent dans le Père-Lachaise autour de toute une série de statues et que je ne suis pas du tout persuadée que ça ait un lien fort avec la politique.
Vous évoquez Neuilly, cela conduit en fait à une réflexion sur la topographie des manifestations dans la capitale, qui a beaucoup changé d'une période à l'autre.
Alors, elle a profondément changé. On vit un peu avec des idées toutes faites, qui est un Paris de l'Ouest, qui serait le Paris de la droite, et le fameux triangle République-Bastille-Nation, qui serait le lieu des manifestations de gauche.
Il a fallu assez longtemps pour que cela se précise.
C'est quelque chose qui se construit en 1936, avec une opposition qui d'ailleurs n'est pas une opposition de droite-gauche, puisque à la suite de la manifestation des ligues d'extrême droite du 6 février 34 et jusqu'au 30 mai 68, la droite sera très peu présente, pour ne pas dire moins, dans les rues de la capitale. Il s'agit en fait d'une opposition intériorisée par les manifestants entre un Paris des manifestations populaires, qui se trouve être de gauche de 1936 au 30 mai 68, et les manifestations de souveraineté auxquelles les Champs-Élysées, les Invalides, des espaces qui sont aujourd'hui quelquefois revendiqués ou appropriés par des manifestations, sont alors interdits.
Mais ce sont des monuments qui sont antérieurs à la Troisième République. La Troisième République, officiellement, donne une grande place à la nation. Il y a en particulier l'érection de cette statue de Jules Dalou sur la République, qu'on peut encore admirer aujourd'hui.
Bien sûr, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les statues qui ont marqué de leur emprise initiale les espaces et qui auraient déterminé l'existence d'espaces de gauche marqués par les statues de la République et d'espaces de droite. Ce sont les manifestations du Front populaire qui, brusquement, ont réactivé un sens totalement enfoui et non approprié jusqu'alors de la statue de Dalou. Il faut bien voir que lorsque les organisations ouvrières émergentes organisent ce qu'on appelle les mises en demeure, le 1er mai 1890, ce sont les premières manifestations qui tentent de se déployer dans l'espace public. Ces manifestations, des manifestations de 1er mai, à Paris, tenteront de se déployer à la Concorde, donc pas du tout dans l'espace que nous considérons aujourd'hui comme l'espace traditionnel des manifestations populaires ou de gauche.
Le centre des manifestations du 11 janvier dernier a été fidèle à cette topographie relativement récente, même si elle n'a pas eu la portée politique d'une opposition d'une France contre l'autre.
Oui, bien sûr, mais je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas surestimer les usages de l'espace. Paris est une petite ville. Au total, il n'y a pas tellement d'espaces qui soient des espaces possibles. Tout n'est pas forcément interprétable en termes de symbolique en matière d'espace aujourd'hui, compte tenu du très grand nombre de manifestations qui se déroulent dans la capitale, quelquefois une dizaine par jour, dont de très petites.
Au début de la Troisième République, certains des nouveaux dirigeants considèrent que puisqu'on a atteint la liberté, il n'y a plus de motif véritable de faire des manifestations.
Absolument.
Contre le despotisme.
Contrairement à ce qu'on croit, et ça étonne toujours les collègues étrangers dans des colloques où nous essayons d'échanger nos expériences historiques, contrairement à ce qu'on croit, la manifestation en France n'est devenue un droit que très tardivement et par l'intermédiaire de décisions de la Charte européenne des droits de l'homme. Il faut attendre un arrêt du Conseil constitutionnel de 1995, c'est-à-dire finalement hier, pour qu'il soit dit que la manifestation est un quasi-droit constitutionnel. Elle n'a jamais été inscrite sous cette forme-là dans aucune de nos constitutions. Il y a une, pour les républicains et pour la philosophie politique républicaine, une illégitimité fondamentale du collectif, de tout ce qui peut servir de corps intermédiaire, d'écran entre l'individu, citoyen, électeur, et la seule représentation légitime du peuple souverain, sont la Chambre des députés et le Sénat.
Et en même temps, c'est de cette Troisième République, début du XXe siècle, disons, que date le moment où la police accepte de se concerter avec les organisateurs des manifestations, même si celles-ci ne sont pas théoriquement légales, pour permettre que les choses se passent mieux sans débordements imprévisibles.
Oui, on a d'une part, de la part des Républicains, la volonté de maîtriser l'espace public en faisant un espace de commémoration, avec l'organisation de grandes manifestations de souveraineté du type 14 juillet ou du type enterrement de Victor Hugo.
Ou le centenaire de la Révolution en 1889.
Absolument. Donc l'espace public doit être un espace maîtrisé par les pouvoirs publics. Par ailleurs, dès lors que cette manifestation qui n'est pas un droit est néanmoins une pratique, alors elle l'est en province où les maires ayant le droit de police sur leur commune peuvent autoriser ou ne pas autoriser les cortèges. Et en pratique, ils vont très tôt autoriser pour certains le maintien des processions, mais pas pour d'autres. Pour beaucoup d'entre eux, les manifestations que j'appelle appendices de grève, qui participent de l'organisation et du déploiement de grandes grèves, ça ne veut pas dire que ça ne se termine pas très mal quelquefois, mais globalement, il y a une tolérance plus forte pour ce qui finit par relever du rituel, de la tradition, des pratiques coutumières. Et les cortèges accompagnant la grève sont souvent considérés comme tels. Et Paris, qui compte tenu de son statut d'exception consécutif à la Commune, est un espace dans lequel les choses se règlent un peu différemment.
Vieille inquiétude des pouvoirs centraux,
bien
toujours.
Bien sûr, toujours la crainte de la rue, la crainte de la rue parisienne, bien sûr. Dès lors que la manifestation existe, et pourtant elle tourne, hein, et pourtant il marche, dans certaines circonstances où il apparaît qu'à l'évidence, il va y avoir un très grand déploiement, et la première fois, c'est 1909, c'est ce qu'on appelait la Grande Protestation. Un pédagogue anarchiste, Francisco Ferrer, a été exécuté par le pouvoir espagnol. Il y a, à l'échelle internationale, c'est une première, une grande protestation, pour reprendre la formule d'alors.
Jaurès défile à la tête de ceux qui protestent à Paris.
Ce sont les socialistes qui demandent à organiser cette grande protestation. Paraissent moins inquiétants que les anarcho-syndicalistes au regard des pouvoirs publics. Et donc, le choix est fait pour la première fois d'autoriser ce cortège et par là même de l'organiser. Et organiser, ça veut dire la mise en place d'un dispositif spécifique de la part de la police, mais également pour la première fois un service d'ordre de la part des manifestants.
C'est le temps du très inventif et très actif préfet Louis Lépine.
Absolument. Qui entend maîtriser l'espace et qui sait maîtriser l'espace, puisque les 1er mai ne peuvent jamais se déployer dans Paris. Les photographies dont nous disposons pour illustrer les 1er mai d'alors sont des photographies où on voit la place de la République qui est totalement quadrillée par ce qu'on appelle les manèges bouquins, hein, avec les chevaux. Enfin bon, donc pour représenter la rue, on représente les forces de l'ordre qui occupent la rue et qui interdisent tout déploiement dans la rue.
Un peu avant, il y a ce moment sur lequel il faut s'arrêter parce que il est à la rencontre entre l'émergence d'une spontanéité populaire et d'une organisation officielle. C'est le moment des obsèques de Victor Hugo que vous évoquez il y a un instant. Jules Claretti, un des écrivains de l'époque, parle de la trêve de Victor Hugo. L'atelier chômera, le théâtre fermera, les passions s'apaiseront et les partisans des vieux trônes se joindront aux fils de la Révolution pour accompagner, tristes et recueillis, les restes du chantre sublime de toutes les gloires et de tous les malheurs. Fin de citation.
Victor Hugo, c'est l'homme des misérables. Et donc les obsèques de Victor Hugo, c'est la première réappropriation de l'espace parisien après la Commune de Paris. Il y a un article qui paraît au lendemain de ses obsèques et qui dit, je cite de mémoire, « Le peuple de Paris serait réhabilité s'il avait besoin de l'être ». Mais il a besoin de l'être au regard de ceux qui écrivent, puisqu'il y a eu la Commune de Paris qui est quand même vécue par les Républicains qui viennent de prononcer l'amnistie, mais qui n'est pas vécue comme un épisode qu'il s'agit de commémorer et qu'il s'agit d'oublier. Donc c'est le retour du peuple de Paris dans la rue, et c'est Victor Hugo et c'est Les Misérables qui permet cette réappropriation. S'agit-il d'une réconciliation de tous? C'est plus complexe que ça, puisque le parcours a été décidé de telle manière qu'il ne passe pas par le Père Lachaise et par les quartiers de l'Est parisien, et donc il passe par des quartiers qui sont sociologiquement mieux maîtrisés et mieux maîtrisables.
Il habitait avenue Victor Hugo, puisqu'elle s'appelait ainsi de son vivant.
Ce qui est intéressant, c'est que il en va de... Enfin, je crois que ces obsèques, on parlait tout à l'heure des manifestations de Front Populaire et du rôle brusquement qu'elles ont redonné au statut de la République, dont on avait oublié jusqu'à la présence, c'est bien évidemment les obsèques de Victor Hugo, mais Victor Hugo qui est aussi L'homme des Misérables, et qui est aussi l'inventeur de Gavroche, qui redonne au Panthéon son plein sens.
Parce qu'on rouvre le Panthéon comme temple des grands hommes.
Pour lui redonner la fonction que la Révolution avait imaginé lui donner, mais qui avait débouché sur une histoire complexe, au regard de l'histoire complexe du 1er 19e siècle, et que ce soit un écrivain qui soit finalement l'élément refondateur de ces grands hommes. Je crois que ça dit quelque chose sur le rapport que la France entretient avec la littérature et avec la littérature en tant qu'elle a, pour une part, construit l'histoire.
Un million de participants à cette manifestation, dit-on, évidemment, plus encore qu'aujourd'hui, on a de la peine à décompter. Ça vous paraît vraisemblable ?
C'est un rassemblement énorme. Il faut bien avoir conscience que... On parle beaucoup du 12 février 34. Les grandes manifestations des années 30, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Hein. Donc, un million dans les rues de Paris, c'est peut-être pas un million. Hein. Mais c'est un rassemblement, je crois qu'on peut dire, totalement inédit.
C'est à la fois une manifestation patriotique qui rassemble beaucoup de sensibilités différentes. Et en même temps, ce n'est pas une manifestation unanimiste, puisque toute une partie de la droite... On veut à Victor Hugo et aux organisateurs des obsèques, qui ont suivi d'ailleurs les volontés du poète en refusant qu'il ait des funérailles à Notre-Dame, en particulier le corbillard va vers le Panthéon. Certains écrivains de la presse catholique proclament « Satan triomphe ».
Mais oui, je crois quand même qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans un pays où toutes les manifestations de souveraineté, de la fête nationale aux obsèques de Victor Hugo, ont toujours été marqués par cette nécessité de prendre en compte la place du peuple dans la rue, et donc la place du collectif dans l'évolution de notre histoire. C'est quelque chose qui est quand même très spécifique à la France.
C'est un collectif qui reste un collectif de combat, étant donné que...
Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est Victor Hugo, mais il est l'homme des Misérables, et donc derrière lui, c'est Gavroche qu'on enterre.
Ce qui donnerait une... originalité, décidément, à la manifestation du 11 janvier dernier, beaucoup plus de collectif, beaucoup plus d'aspiration à une unanimité nationale.
Daniel Tartakovsky. Ça participe indéniablement de ce type de mouvement qui permet, autour d'un événement fort, et l'événement fort, ça peut être la mort de quelqu'un qui est un symbole, ou l'assassinat de journalistes devenus des symboles, de journalistes et de dessinateurs devenus des symboles, et d'un journal devenu un symbole, qui permettent donc autour de ces symboles de réaffirmer fortement des valeurs fondatrices de la République et qui n'ont pu être fondatrices que parce que le peuple s'est élevé et qu'il reste debout.
Les manifestations de l'entre-deux-guerres que vous avez déjà évoquées en passant sont évidemment pour l'essentiel d'origine politique. Et je voudrais que nous y venions maintenant en évoquant notamment ce grand moment qui a été le moment du 12 février 1934 qui a suivi les émeutes de la place de la Concorde avec des morts qui sont restés sur le pavé. Le 12 février, une levée en masse, comme on a dit à l'époque, permet au Parti communiste et au Parti socialiste en particulier, et aussi aux radicaux dans une large partie, de se retrouver dans Paris et avec le propos de Léon Blum, qui était à l'époque le leader de la SFIO, et qui s'exprime de la sorte.
Il ne laissera pas toucher. Il ne laissera pas toucher à la République qui est son bien. La preuve est faite. La province soulevée tout entière, Paris rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne, sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris.
Ben oui, levé en masse, ces citoyens, c'est pas citoyen, la patrie est en danger. Moi, j'ai utilisé la notion de levé en masse par référence à Valmy. Alors, ça n'est pas la patrie qui est en danger, c'est la République qui est en danger, comme elle est en danger aujourd'hui, je crois. Alors, face à des adversaires qui, en 34, c'est l'ennemi intérieur, hein, c'est le fascisme sous l'espèce des ligues. Aujourd'hui, ce sont des périls d'une autre sorte qui menacent quelques-unes de nos valeurs fondatrice. Et face à cette menace interne, externe, qui risque de toucher à l'essentiel, la nécessité de se lever, enfin de se lever autour des forces politiques. Là, on voit évidemment la différence avec les manifestations que nous évoquions précédemment, puisque nous sommes en 34 face à un péril qui menace et où les organisations politiques sont à la recherche d'une stratégie qui permette de faire front. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que cette manifestation du 12 février 34 va jouer un rôle important, un rôle détonateur dans le processus qui conduit à la construction du Rassemblement populaire entre les communistes, les socialistes, les radicaux et une centaine d'associations et les syndicats, bien évidemment. Et ça, c'est toutes les questions qui se sont posées ces jours derniers, ces semaines dernières, quant au devenir et l'après Charlie. Qu'est-ce que c'est que l'après Charlie et qu'est-ce que c'est que l'après 11 janvier? Est-ce que le 11 janvier est susceptible de redessiner, de recomposer le champ politique? Je laisse la question ouverte parce que nous risquons très vite de sombrer dans des supputations. Mais il y a eu dans ce pays quelques rares manifestations qui ont joué un rôle moteur dans la recomposition du politique.
En fait, dans la typologie des manifestations qu'on peut s'efforcer de dresser, on revient toujours à l'idée que la plupart des manifestations ont été celles d'un camp contre un autre, d'une partie de la France contre un autre, et qu'au contraire, on a pu avoir le sentiment en janvier dernier qu'il en allait autrement. Et du coup, on a été renvoyé à d'autres époques, à d'autres épisodes d'apparente unanimité de manifestations. Il y a eu peut-être le 14 juillet 1919 à cet égard. Il y a peut-être eu août 1944.
Oui, mais bien sûr, mais nous ne sommes pas tout à fait dans la même configuration dès lors que les épisodes que vous évoquez sont des épisodes qui sont consécutifs à des guerres qui s'achèvent et où par conséquent cette union sacrée, quel que nom qu'on lui donne, ou cette union nationale qui s'est réalisée face à l'adversaire dans la guerre, s'exprime encore par et dans la rue, mais les deux manifestations que vous évoquez sont la fin de quelque chose. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le 11 janvier peut être le début de quelque chose, puisque là nous sommes dans une manifestation défensive, hélas, face à des menaces dont nous savons bien qu'elles risquent de se réitérer. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse pousser beaucoup plus loin la comparaison.
Et du même coup, vous avanceriez vers l'idée que le 11 janvier a été d'une certaine façon sui generis, reste sans pareil pour l'heure, si on recherche dans le passé.
On peut trouver d'autres manifestations dont l'assise est extrêmement large autour des valeurs, mais c'est toujours face et contre. C'est le 1er mai 2002 face à la présence de Le Pen au second tour, mais il y a un adversaire en face. Donc non, oui, je crois que c'est la seule.
L'entre-deux-guerres voit de fait des manifestations qui non seulement opposent une France contre l'autre, mais parfois la gauche contre la gauche. Je pense à ce qu'a marqué la grande cérémonie du transfert des cendres de Jean Jaurès. Jaurès a eu au fond deux funérailles. Transfert de ses cendres en 1924, au moment du cartel des gauches, au Panthéon, où on voit le cortège officiel, radical et socialiste être suivi par un cortège tout à fait différent, qui est le cortège...
Jaurès n'avait pas mérité ça, titre l'humanité.
Et on voit dans son livre La Conspiration, Paul Nizan dire de la même façon, on sait, après avoir assisté au défilé communiste, on sait avec qui il faut être.
C'est la première fois depuis la naissance du Parti communiste que des communistes arrivent à se déployer dans la rue avec des drapeaux rouges à la faveur du cortège officiel, qui a encore créé un espace-temps un peu particulier qui permet la première apparition dans l'espace public des communistes.
Une gauche contre l'autre et non plus la gauche contre la droite.
La gauche contre la droite, ce sera ultérieurement.
Par exemple, peu de temps après l'épisode que vous évoquiez de 34, lorsque Léon Blum est victime d'une agression, à vrai dire spontanée, février 1936, puisque sa voiture sortant de la Chambre des députés, passant par la rue d'université, se trouve croisée le cortège de Jacques Bainville, le grand historien très cher à la droite, et en particulier à l'Action française, et que sa voiture est attaquée, qu'il est blessé. Il y a, à la suite de ça, une grande manifestation avec d'ailleurs déjà des symboles, l'utilisation de la photo de Léon Blum avec la tête bandée, etc.
Oui, si je profite de ce que vous dites pour rappeler qu'on a finalement très peu d'acteurs qui soient des acteurs de l'histoire des manifestations de rue dans la très longue durée. les organisations syndicales, mais sous une forme très éclatée, l'Action française est sans doute un des acteurs qui a la plus grande pérennité dans l'histoire des manifestations de rue. On l'a retrouvé dans Jour de colère, hein, il y a quelques mois. Et rappelons effectivement qu'en 1936, les Camelots du Roi s'attaquent à Léon Blum en le molestant quand même assez violemment. Et ça va permettre un très grand rassemblement unitaire qui prélude d'une certaine manière à la victoire quelques semaines plus tard.
J'en viens à une manifestation qui est également intéressante parce que le patriotisme y rejoint la tradition de la gauche militante. Nous sommes le 27 mai 1945. Il y a un défilé devant le mur des fédérés. C'est l'anniversaire de la semaine sanglante. C'est une archive de la radio d'État. Écoutez.
28 mai 1871, 27 mai 1945. Comme chaque année, le peuple de Paris défile devant le mur des fédérés. Le mur, conclusion terrible de la semaine de mai, fin de la Commune. Aujourd'hui, le cimetière du Père-Lachaise est envahi par une foule silencieuse. 14 heures, voici que commence l'immense défilé. Des groupes défilent avec leur immense banderole. Les amis de la Commune, comité central du Parti communiste français, comité directeur du Parti socialiste SFIO. Les membres principaux du Parti socialiste et communiste gagnent la tribune. Daniel Veillère, Torres, Duclos, Verdier, Jacquet. Le défilé continue. Voici ceux de la résistance. Chacun arbore son drapeau, celui de sa fédération. Les groupes des FTP portent avec fierté une grande photo du général Fabien. Puis, voici les banderoles. Hommage aux héros, châtiment rapide, pétain au poteau. Nous avons vaincu militairement le fascisme, maintenant unissons-nous pour reconstruire la France. Gérons-nous dans la foule. Maintenant défile l'association des déportés de Buchenwald. Crâne rasé, physionomie tendue, amaigrie, mais que de ferveur et de résolution exprimées dans leur visage. Ceux-là aussi commémorent tous ceux qui sont morts pour la liberté. Maintenant, nous enlevons un moment Daniel Meyer, secrétaire général du Parti Socialiste, de sa tribune et nous lui en demandons d'évoquer pour nous le sens de cette commémoration.
C'est la première fois depuis 6 années que le peuple de Paris, ardent, à la fois démocratique et révolutionnaire, revient au mur des fédérés. Et cette fois, cette commémoration ne s'adresse pas seulement aux héroïques combattants de 1871, on évoque avec la même ferveur tous ceux qui sont tombés depuis 1940 dans la résistance, dans les maquis, dans les francs-tireurs et partisans, dans les forces françaises de l'intérieur, dans les camps de concentration, parmi les déportés, parmi les prisonniers des Oflag et des Stalag, tous ceux qui sont tombés pour la même cause et qui menaient le même combat que les glorieux communards. Le seul moyen de leur rester fidèles est de construire le monde pour lequel ils sont morts.
Et le défilé continue, inlassable, interminable, infatigable. À la sortie du cimetière, les groupes se disloquent. Certains sont accompagnés de leurs fanfares, et c'est au rythme d'une marche militaire que le peuple de Paris reprend la vie quotidienne.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Précisons, Daniel Tartakovsky, qu'il s'agit du colonel Fabien et non pas du général Fabien. C'est un des grands dirigeants communistes de la résistance. On est là à la rencontre du sentiment patriotique et de la tradition ouvrière et socialiste.
Ben oui, on est dans ce grand moment de la libération où les forces de la résistance unies tentent à l'échelle politique, de construire une France nouvelle. C'est un moment fort, parce que c'est un moment de reprise de l'espace public, par une résistance unie. Alors, s'agit-il d'un moment d'unanimisme tel que vous l'évoquiez ? Oui et non, puisqu'il y a évidemment en face une France qui n'a momentanément plus la parole, qui est la France de Vichy et la France des collaborateurs. Mais néanmoins, l'unanimité des forces qui se sont battues contre l'occupant et contre Vichy. Et moment fort, je crois, parce que ça montre bien comment ces défilés en France, ces commémorations, mais commémorations de mouvements de la rue, la Commune, sont des moments de circulation de l'histoire et de transmission de l'histoire dans la mémoire collective, et en même temps, comment l'histoire qui se fait, ces résistants qui se sont battus, qui sont morts pour certains, mais qui pour d'autres l'emportent et défilent ce jour-là, donne sens à la mort des martyrs de la résistance, mais donne sens à la mort des communards. Donc je crois qu'on est dans un moment de très grande communion, et là encore très révélateur de la place d'une certaine histoire dans la construction de notre imaginaire collectif et de notre rapport à la politique.
Est-ce qu'il faudrait, du même coup, faire la distinction entre les manifestations d'anniversaire qui peuvent donc être prévues et puis celles qui jaillissent d'un événement inattendu comme la dernière en date ?
Bien sûr. Certaines commémorations, ça a été le cas de certains 14 juillet, de certains murs des fédérés, dans des conjonctures particulières, ont été l'occasion de l'expression d'un large mouvement collectif. La manifestation du 11 janvier, par définition, était une manifestation qu'on pourrait qualifier d'inopinée, qui est une manifestation de réaction. Mais le fait que nous disposions finalement dans notre calendrier de ces moments qui sont susceptibles, dans de rares circonstances, de cristalliser et de dire beaucoup plus que ce que serait... Prenons l'exemple du 1er mai 2002. Il tombait entre deux tours, mais c'était un 1er mai. Et je ne suis pas totalement sûre qu'une manifestation de protestation contre la présence de Le Pen au second tour, qui aurait eu à une autre date, aurait revêtu ce même caractère.
Entre-temps, il y a eu la guerre d'Algérie, qui, du point de vue de l'histoire qui nous occupe, celle des manifestations, a évidemment beaucoup compté. Je pense en particulier à la manifestation de Charonne, qui a abouti à la mort de 8 manifestants écrasés sur les grilles du métro de Charonne. Et donc ensuite, pour leurs funérailles, il y a une manifestation de grande importance, dont je restitue, si vous le voulez bien, ici, par cette archive, dont je restitue la tonalité, l'ambiance, l'atmosphère.
À ces 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail, où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense, dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes, a suivi le cortège. Cortège silencieux, seulement ponctué des accents d'une marche funèbre, et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement. Des monceaux de fleurs, gerbes coûteuses ou humbles bouquets ont donné le ton de la piété populaire. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée. Au Père Lachaise, la même foule, le même silence. La tristesse des familles éprouvées, une fleur qu'on jette sur un cercueil, une femme évanouie qu'on emporte. Et par-dessus tout, la conscience d'un peuple.
Nous sommes le 14 février 1962, c'est une archive des actualités françaises qu'on montrait au cinéma. On n'a pas ici les images, mais
on n'en a pas besoin.
On n'a pas vraiment besoin.
La musique parle pour elle.
Voilà à nouveau une manifestation qui est une manifestation de funérailles, de solidarité avec des morts. La manifestation du 11 janvier dernier a eu aussi, d'une certaine façon, cette coloration.
Oui, et puisque vous évoquiez tout à l'heure Paris, la France et au-delà de la France, je crois qu'il faut distinguer les obsèques à la présence d'un corps, et ici deux corps. Ce sont 8 militants qui vont être enterrés au Père Lachaise. Et puis des manifestations comme celle du 11 janvier, où bien évidemment la mort est en jeu, mais où il n'y a pas de corps. Et je crois que le rapport à la sacralité n'est pas de même nature quand même. Il faut bien se rappeler qu'entre 1953 et cette manifestation, c'est plus que dangereux que d'être présent dans la rue où les manifestations sont interdites, et en particulier pendant la guerre d'Algérie. Rappelons la manifestation d'octobre 61, avec la manifestation algérienne, mais rappelons également cette manifestation de Charonne. C'est une réappropriation de la rue. Depuis 53, il n'y a pas eu de grandes manifestations, enfin de manifestations d'ampleur dans les rues de Paris. La rue parisienne est une rue maîtrisée par les forces de l'ordre. On pourrait dire que c'est la seule manifestation de masse qui se soit déroulée durant la guerre d'Algérie.
En dehors de celle d'octobre, qui est assez particulière.
Qui est d'une autre nature et qui nous prendrait peut-être un temps un peu long là, pour en parler. Et là encore, je ne dis pas que c'est grâce à cette manifestation que la guerre se termine, mais nous sommes dans ce moment de transition. C'est la fin quand même, c'est la fin de la guerre.
La plupart de ces manifestations, lorsqu'elles sont dominantes partisanes, sont des manifestations de gauche dans la grande tradition de la première moitié du 19e siècle. Il y a eu néanmoins des manifestations de droite qui ont été importantes, je pense à celle des Camelots du Roi, certes minime en nombre, mais qui existait avant 1914, quand ils avaient leur centre stratégique rue Monsieur le Prince. Et puis surtout, certaines manifestations plus récentes, la grande manifestation pour l'école privée, l'école libre, comme on dit de ce côté-là, en 1984. Écoutez ce qu'en disait le maire de Paris. Je rappelle qu'on est sous le gouvernement de Pierre Mauroy, qui ne va d'ailleurs pas y survivre. La grande question est celle de la situation de l'école privée dans ce pays.
Cette manifestation, je souhaite d'abord qu'elle soit très réussie et pour cela que de très nombreux Parisiens se joignent aux très nombreux provinciaux qui viendront à Paris. Et qui viendront à Paris au-delà de toute préoccupation politique ou partisane, simplement pour témoigner de leur attachement aux libertés en général et à une liberté en particulier mise en cause actuellement par le gouvernement et qui est celle de l'enseignement. Bien entendu, je souhaite ardemment, et c'est une nécessité si l'on veut que cette manifestation ait son plein effet, c'est-à-dire qu'elle impose au gouvernement une révision de la position sectaire qu'il a prise sur ce sujet, il faut qu'elle se déroule dans l'ordre, dans le calme, dans la dignité, qui sont les caractéristiques des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui ont des convictions inébranlables en ce qui concerne leur droit à défendre leur liberté. Et j'appelle donc à la fois les Parisiens à être très nombreux à cette manifestation, à accueillir avec fraternité et hospitalité les provinciaux qui viendront, et aussi, bien entendu, à être calmes et sereins, ce qui s'impose pour une manifestation de cette importance et de cette qualité et de cet enjeu.
Vous pensez qu'on peut réunir près d'un million de personnes dans les rues de Paris et ne pas courir le risque de débordement ?
Vous savez, il s'agit de gens raisonnables, qui défendent un droit, qui défendent une liberté. Il ne s'agit donc pas de passionner. Je suis tout à fait persuadé, en me référant à toutes les autres manifestations qui ont eu lieu, et notamment à la très importante manifestation de Versailles, que l'ensemble de ces manifestants exprimeront leurs droits dans le calme et avec force et sérénité. J'ajoute qu'il appartient au gouvernement et à lui seul de faire en sorte qu'il n'y ait aucun incident et de faire respecter ce droit essentiel dans une démocratie qui est le droit à la manifestation.
De fait, la manifestation s'est passée de façon relativement calme. On peut rappeler que 10 ans plus tard, il y a eu une manifestation exactement inverse pour la défense de l'école
Absolument.
Publique sous le gouvernement d'Édouard Balladur en 1994. Mais de celle-ci, on peut tirer quelques enseignements.
D'abord, elle est là pour nous rappeler que la gauche n'a pas le monopole de la manifestation et qu'il y a une longue tradition de manifestations à droite. Mais ces manifestations qui se situent à droite sont extrêmement discontinues et sont organisées par des acteurs qui ne sont jamais les mêmes. Et donc, les droites n'entretiennent pas la mémoire de leurs manifestations. Parce que rappelons quand même qu'il y a eu une très puissante mobilisation contre l'extension des lois laïques à l'Alsace et à la Lorraine en 1924-25, dont les organisateurs des manifestations de 84 auraient pu se prévaloir, puisqu'ils ont gagné en 24-25, comme ils ont gagné en 84, et qu'ils en avaient perdu la mémoire.
Il y a l'action de la Fédération nationale des combattants, du général de Castelnau,
bien sûr, hein,
qui rassemble aussi des grandes foules.
Oui, c'est cette fédération qui est à l'initiative des très puissantes manifestations de 24-25, dans nombre de villes de province, beaucoup plus puissantes que les manifestations de 1936, et on en perd la mémoire.
22 juin 1984, c'est aussi la démonstration que, en dépit de ce qu'avaient pensé les fondateurs de la Troisième République, la rue peut être une manière de faire appel du suffrage universel, puisque c'est la chute d'abord du ministre Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, puis le départ du Premier ministre Pierre Mauroy.
Absolument, je crois que de 84 à 95 en tout cas, la rue a fonctionné pendant une dizaine d'années en France comme une manière de référendum d'initiative populaire que nul n'avait décrété. Le mariage pour tous participe de cette conception de la manifestation jusqu'au vote de la loi. Une fois que la loi est votée, ça devient évidemment plus compliqué que de définir la finalité du mouvement. Mais je crois qu'il est important de rappeler que la première manifestation qui initie ce cycle, c'est bien celle de 84, et qu'elle est le fait, ne disons pas de la droite, mais disons de force qui manifeste à la droite de l'échiquier politique.
Au terme de cette conversation sur les manifestations enfants dans la longue durée, Daniel Tartakovsky, je voudrais que nous considérions une dernière fois celle du 11 janvier dernier, voir en quoi elle est dans la continuité et en quoi elle peut apparaître en rupture par rapport à cette longue tradition. Il y a l'expression d'un sentiment national, il y a la défense de la liberté d'expression, cela rejoint beaucoup de précédents, notamment du 19e siècle, et puis il y a la question des relations entre l'individuel et le collectif. On nous dit que notre société est bien plus individualiste que naguère, et pourtant il y a rassemblement. Je suis Charlie, on ne dit pas nous sommes Charlie. Quelle réflexion cette interrogation peut-elle vous inspirer ?
Ah, ça me perturbe. Le je me perturbe. Il est clair que c'est sans doute un des plus grands rassemblements qu'on ait jamais connu, que visuellement il y avait une absence de marquage, hein, qui était un des principes de cette manifestation.
Pas de banderole, pas de...
Même si, si ou là, il y en avait... Ça ne veut pas dire que les organisations, que des organisations, je pense aux grandes organisations antiracistes, ne s'étaient pas mobilisées pour cette manifestation, mais en tout cas, très peu de marquages, voire des marquages inexistants. Une forte dimension familiale, on était un dimanche, assez rare comme date, comme journée choisie. Donc, oui, sans doute, des individus qui viennent à partir des valeurs qui sont les leurs. Bon, je crois qu'il faudrait travailler en profondeur pour savoir sur quelle base on est venu à cette manifestation, comment est-ce que le « je » constitue un « nous ». Moi, j'étais très marquée par les rassemblements dans les jours qui ont précédé à la République, où c'était bien des « je ».
Spontané le soir du,
oui,
le soir du crime.
Oui, et en même temps, c'était très perturbant parce que je suis là et que fais-je ? Et donc, c'est peut-être toute la question que vous initiez tout à l'heure sur qu'est-ce que ça donne et comment est-ce que cela se prolonge. Je crois que d'une certaine manière, la difficulté à construire, je ne vais pas dire un après-Charlie, mais un après-manifestation du 11 janvier, tient peut-être à cette prééminence forte des individus. C'est important dès lors que ces individus entrent ou retournent en politique à partir de valeurs. Et en même temps, c'est peut-être les limites de l'exercice.
Eh bien, nous resterons sur cette interrogation. Je rappelle, parmi les nombreux écrits que vous avez donnés sur cette question des manifestations, deux livres qui me paraissent majeurs. Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestations en France, chez Aubier, paru en 1998. Et puis dans la foulée, vous avez également évoqué votre cher père Lachaise. Nous irons chanter sur vos tombes. Un beau titre. Le père Lachaise, 19e, 20e siècle. Hommage aussi au livre d'Emmanuel Furex, La France des larmes, deuil politique à l'âge romantique, paru chez Chamballon en 2009. Et puis bien sûr, une bibliographie beaucoup plus développée, beaucoup plus complète, vous sera proposée sur notre site et vous y trouverez les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également, grâce à ce site, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, ce sera la dernière des émissions consacrées à un effort d'interprétation historique des événements de janvier dernier. Nous parlerons de l'indignité nationale, une notion qui a surgi à la Libération et qui réapparaît. L'indignité nationale, résurgence d'une peine infamante. Et j'inviterai à ce propos Anne Simonin, qui a écrit un livre important sur ce thème. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet. Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur m'ont aidé précieusement, comme chaque semaine, à la préparer. Une émission réalisée par Patrick Molinier, avec la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille, à la discothèque Romain Couturier et Sandra Escamez pour les archives INA. Thank you. Et maintenant, comme chaque samedi, l'émission de Dominique Rousset, l'économie en question.